Bien, nous allons commencer. Je m'appelle Sipom Tati, secrétaire général de la campagne d'élection en Afrique du Sud et je serai la présidente de cette session. Modératrice également avec moi, c'est Michel. Je vais la laisser se présenter. Le laisser. Je suis Michel Letroff. Je représente Médecins sans frontières et je vais être le modérateur pour cette séance. Cependant, on demande aux gens de vouloir se rappeler qu'il y a dans cette salle des distributions de fiches pour la discussion. Il y a des gens qui vont passer. Si vous avez des questions pour les participants, veuillez s'il vous plaît demander ces fiches et ces fiches nous parviendront par la suite. Alors je crois, comme vous pouvez le remarquer, nous allons parler d'un sujet qui est intéressant, particulièrement pour les gens vivant avec le sida, comme vous allez le voir dans les questions mêmes. On demande que les systèmes de brevets soient revus et qu'il y ait de nouvelles façons de procéder parce que les brevets deviennent une barrière, un obstacle à l'accès aux médicaments et placent les profits avant les gens. Alors, notre premier conférencier, Alexandro, qui est notre président directeur de Gastos au Brésil, un groupe qui travaille avec la propriété intellectuelle au Brésil. Alessandro, si vous voulez bien prendre la scène, rappelez-vous que vous avez un maximum de 11 minutes, cher conférencier, pour qu'on puisse avoir une période de questions et de réponses. Merci. Je remercie les organisateurs de cette conférence qui nous a invités à parler. À un moment en particulier, où, comme nous l'avons vu dans les derniers mois, l'échec des négociations de la part de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, il faut voir d'autres façons de parler de commerce dans ce monde et que les gens doivent venir avant le commerce. Alors, tout d'abord, j'aimerais m'excuser parce que j'ai préparé ma présentation en espagnol, pensant que nous aurions l'interprétation de l'espagnol à l'anglais. On vient de me dire qu'il n'était pas possible d'avoir ce genre de service. Et donc, je parle la présentation, c'est-à-dire les diapos seront en espagnol, mais j'essaierai de parler en anglais afin que tout le monde puisse me comprendre. La première diapo essaye d'établir un contexte dans lequel nous discutons de ces enjeux de commerce au Brésil. Et on m'a demandé de parler ici de notre cas en particulier, où nous avons pris des actions légales contre les laboratoires Abbott. Et cela démontre comment le système de santé fonctionne en ce qui concerne les soins en général. Nous avons ici, en 1988, notre constitution qui garantit les droits à la santé en tant que droit qui est une obligation de l'État et qui doit être fournie par l'État à tout le monde. En 1993, nous avons commencé à produire localement l'AZT et par la suite DDI. En 1993, nous avons eu ADPIC et en 96, les Brésiliens ont statué jusqu'en 2005. Le gouvernement a décidé de signer l'accord. Et en 96, nous avons eu cette loi sur la propriété intellectuelle qui a causé beaucoup de problèmes à presque 2000 entreprises et laboratoires au Brésil s'occuper de la production de médicaments, surtout ceux qui pourraient être produits, qui pourraient aider dans le cas de l'infection au VIH. Ça faisait partie de notre système. La même année, il y a eu les Sarnés qui obligeait les États à fournir des médicaments gratuits à tous ceux qui en avaient besoin, médicaments donc pour le VIH et le SIDA. Nous avons donc deux lois différentes qui ont en même temps cette bonne perspective d'avoir des médicaments prêts antirétroviraux pour les gens. Alors, cela fournit des médicaments pour 175 000 personnes qui ont besoin de ces médicaments. Alors, ce sont les gens qui attendent, qui ont besoin de ces médicaments au Brésil aujourd'hui. En 2001, nous avons commencé avec une discussion de façon de réagir envers les laboratoires qui ne baisseront pas leur prix, que nous allons émettre une licence obligatoire. Nous avons formulé cette loi en 2001, mais nous venons à peine d'obtenir la réduction de prix. En 2003, le gouvernement brésilien a établi une ligne de base pour ces licences obligatoire et la société civile a décidé d'aider le ministre au ministère de la Santé à créer des alliances afin d'implanter et de fournir ces licences pour certains médicaments. Nous avons donc eu une grande crise au début de 2005, un manque de médicaments et le gouvernement disait qu'il y avait un problème d'infrastructure, que ce n'était pas directement relié au manque d'argent, mais au manque d'infrastructure pour transporter et livrer les médicaments. En 2005, le gouvernement brésilien avait mis une échéance à Merck, à différents laboratoires, leur demandant d'avoir une licence volontaire pour ces trois médicaments qui sont inscrits ici sur ma diapo, mais les laboratoires n'ont pas coopéré avec le gouvernement et ils ne s'inquiétaient que de leur profit. Ici, dans cette diapo, vous pouvez voir la différence et l'impact de commencer à donner une deuxième ligne de médicaments aux gens au Brésil. Donc, nous avons en 2004 presque 600 millions pour les médicaments, alors qu'en 2005, nous avions des médicaments beaucoup plus dispendieux, montant à des coûts de 1 milliard par année. Alors, les médicaments de deuxième ligne ont eu un énorme impact sur notre budget pour la distribution de médicaments gratuits pour le peuple brésilien. En 2003, il y a eu des médicaments antirétroviraux qui ont forcé le médicament brésilien à mettre 8% de son budget dans la distribution de ce médicament. Et nous avons maintenant Coletra qui prend presque 30% de notre budget de médicaments gratuits. Nous avons eu beaucoup de protestations. Nous avons défilé dans la rue souvent pour demander au gouvernement d'émettre des licences obligatoires. Et nous avons eu beaucoup d'appui de la communauté internationale. Et il y a eu des manifestations à Londres, ici ou là-bas aux États-Unis, à Washington, New York, San Francisco. Mais ça importe peu, nous n'avons pas eu gain de cause. Et donc, notre ministre, Humberto Costa de l'époque, est devenu reconnu comme un tigre édenté parce que chaque fois qu'il y avait des réunions internationales, il menaçait les laboratoires de licences obligatoires, mais il n'est jamais passé aux actes. En juin, le Mexicain-Brésilien a déclaré que les licences obligatoires pour Caletra était une question d'intérêt national. Le Conseil brésilien de la Santé a également émis une résolution demandant cette licence obligatoire pour Caletra, médicament, mais, et c'est là le problème, malgré tous les efforts, tout avait été organisé, nous avions l'opportunité, les bonnes personnes au bon endroit, mais En octobre 2005, le gouvernement brésilien a signé un terrible accord pour acheter Caletra jusqu'à 2011. C'est une honte pour le Brésil et pour le gouvernement brésilien. Et maintenant, nous devons acheter Caletra pour 63 sous sur le dollar plutôt que de le produire pour 41 sous sur le dollar. Alors, le respect total de Ritonavir et de Lopinavir. Donc, nous avons une réaction très forte et il faut savoir que nous avons des groupes au Brésil qui s'appellent Red Grip, qui sont très bien organisés et plusieurs ONG aussi font partie de cette organisation Red Grip. Et on a dit qu'il était temps de lancer une action légale contre le gouvernement qui ne respectait pas nos droits, selon la Constitution, de fournir des médicaments à une population qui est en grave danger, comme nous le sommes présentement. Et ça sera un grand défi dans les années à venir à fournir ces médicaments à toutes les personnes qui en ont besoin. Alors, c'est un peu le genre de situation schizophrène à laquelle nous faisons face, parce que on est reconnu comme ayant un programme de sida le mieux organisé au monde, mais en même temps, nous avons des décideurs au niveau gouvernemental qui ne sont pas d'accord que le droit à la santé doit être garanti. Alors, c'est une sorte de contradiction, et pour le 2007, nous aurons une augmentation de presque 50 à 60% en deuxième ligne de traitement que nous pourrons soigner. Alors la leçon apprise, c'est qu'il n'y a pas de respect sur les accords internationaux, sur les résolutions. Alors maintenant, j'ai écrit certaines de ces résolutions principales et accords principaux que nous avons ici. Et ma question est, nous en faut-il plus? Nous faut-il plus d'accords, de résolutions? Vu que l'OMC s'est mis d'accord, l'Organisation mondiale de la santé aussi s'est mis d'accord, mais cela ne se traduit pas dans les faits. Nous avons aussi appris que l'on peut faire ce qu'ils disent, mais on ne peut pas faire ce qu'ils font, parce que plusieurs pays, le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne, plusieurs d'entre eux utilisent les licences obligatoires depuis plusieurs années quand il le faut. Mais pour nous, dans les pays moyennement développés, ce n'est pas possible. Pourquoi? Alors, avons-nous des droits ou pas? Des droits humains sont pour tout le monde ou seulement pour quelques personnes ou quelques parties de la population du monde? Je crois que c'est une question qui doit être débattue. Et aussi, ce que nous voyons, en ce qui a trait aux accords, résolutions, et cela n'importe peu, parce que quand ces gouvernements ne sont pas satisfaits avec ces accords, ils entrent en accords bilatéraux ou accords de libre-échange, et ils font ce qu'ils veulent. Donc, tous ces processus nous empêchent, dans les pays en voie de développement, à renforcer notre capacité de production et notre capacité de garantir les droits de la personne à tous et à toutes qui les méritent. Alors donc, pourquoi seulement certains pays peuvent avoir des licences obligatoires? C'est ma question pour être débattue. Et je crois également qu'il est important de réfléchir au fait que santé et non le commerce. Je crois qu'il y a trois éléments importants pour s'assurer que nous gagnerons la guerre contre le VIH-Sida. D'abord, c'est d'avoir la participation de la société civile dans tous les processus. Deuxièmement, de garantir toutes les possibilités d'implanter les droits de la personne pour tout le monde. Et troisièmement, c'est la volonté politique de nos gouvernements pour le faire. Et au Brésil, c'est un exemple où la société civile participe, où nous avons de très belles lois qui garantissent les droits de la personne, mais nous n'avons pas la volonté politique de nos leaders. Et c'est quelque chose à débattre aujourd'hui et ici même.
Merci, Alessandra. Maintenant, après, à la suite, nous avons Anand Grover de l'Inde. Et Anand, il est un avocat en Inde et il travaille en tant que directeur de projet pour l'unité de VIH-SIDA, collectif d'avocats. D'accord, donc ceci a à voir avec ce qui se passe en Inde. Alors, jusqu'en 1970, en Inde, il y avait une loi qui était similaire aux lois dans les autres pays. Mais en 1970, lorsque Madame Gandhi était en pouvoir, elle a remarqué que ça, c'est important. Et que ce que c'était, ça présentait une nouvelle loi. Elle a supprimé la protection qui se connaissait comme la protection des brevets. Donc, juste puisque les brevets sur les produits n'étaient protégés, vous aviez des nouveaux utilisateurs génériques et ça permettait la concurrence. Et puis, en tant que résultat, les prix sont baissés. Et en tant que résultat de ceci également, les fabricants de pharmaceutiques en Inde ont commencé à venir dans ce pays. Puis, dans cette loi, ça venait même avant la loi qui est arrivée en 2005. Il y avait des provisions d'abus du monopole, les licences obligatoires et faciliter la disponibilité et l'accès. L'Inde a signé le régime de l'ADPIC. L'ADPIC, ça veut dire que c'est obligatoire que vous respectiez ceci. Si vous ne respectez pas ceci, il y a des sanctions qui peuvent être imposées, comme la déclaration pour les droits de la personne. Et puis si vous ne revenez pas avec ces déclarations ou ces conventions, vous aurez de l'abus de la part des communautés mondiales. Il n'y a pas de sanctions qui peuvent être imposées, mais l'accord d'ADPIC exige que certaines choses se fassent. La première, c'est le brevet. Donc il y avait un standard minimum qui était établi. Dans ce standard minimal, les pays avaient plus de flexibilité. Et c'est la protection, c'était pour les processus et pour le produit. Et la période minimale était de 20 ans. Donc entre 1995 et 2004, parce que plusieurs pays devaient introduire les différentes lois compatibles au VIH pour les lois différentes. Donc ils étaient supposés de respecter ceci d'ici 2005. Et dans ces pays en développement, par exemple, ils ont jusqu'en 2016. Donc ça donne également les conditions minimales pour les licences obligatoires. Donc ceci s'applique également aux lois qui viennent dans le marché mondial après le 1er janvier 1995, parce que ça c'est le moment où ça a été signé. Par intérêt, entre 2001 et 1995, il devrait y avoir des prévisions. Puis une des prévisions qui est importante pour ma discussion, c'est ce que l'on connaît comme les droits de marketing exclusif. Donc, si une compagnie avait un brevet dans un autre pays signataire et il avait l'approbation du marketing, ça pourrait venir à l'Inde ou dans d'autres pays et puis il pourrait avoir les droits de marketing exclusif. Je vais expliquer ceci avec plus de détails plus tard. Donc, en mars 2005, l'Inde a mis en place une loi pour respecter l'ADPIC et ça a été fait en mars 2005 et ça définit l'invention qui est qui respecte l'ADPIC et c'est un nouveau processus et un nouveau produit qui est une étape inventive et qui est nouvelle et qui est capable d'être appliquée au niveau industriel. Et le deuxième, c'est ce qui est important pour nous dans notre débat, c'est la section 3D. Comme je vous ai mentionné plus tôt, sous cet accord, chaque pays pouvait avoir plus de flexibilité pour définir qu'est-ce qui serait protégé. L'Inde devait protéger les brevets de produits, mais ils avaient la flexibilité, la polyvalence de le faire comme ils pensaient. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'on va protéger les nouveaux produits, mais pas les nouvelles formes ou les nouveaux emplois, les nouveaux emplois de ceci, à moins que ce soit très différent et ça change l'efficacité. Donc 3D, c'est la découverte de nouvelles formes de substances communes qui n'aboutit pas dans l'amélioration de l'efficacité connue de cette substance, ou la découverte ou l'utilisation de nouveaux la nouvelle utilisation de ceci, c'est un produit qui est connu. Donc, pour les objectifs de cette clause, les sels, les éthers, etc., etc., et d'autres substances seront considérées être la même substance. Donc ceci, ça c'est un isomère et puis ça a besoin de nouvelles formes. C'est une nouvelle forme. C'est pas une nouvelle invention parce que ça tombe dans cette catégorie. Et aux États-Unis, une forme cristalline ou un isomère, ça peut être ils peuvent imposer un brevet sur ceci. Puis il y a des problèmes d'efficacité. Puis l'importance doit être importante. Et également les mélanges. Également, on ne veut pas établir des brevets sur ceci. Et puis sous les brevets qui existent en ce moment, il y avait une grande lutte. La société civile s'est impliquée dans ceci. Et puis nous avions été capables d'obtenir des concessions de la part du gouvernement. Une de celles-ci, c'était les 3D. Et l'autre, c'était de préserver ce que nous appelons la opposition avant la délivrance des brevets. Donc, ceci, ce qui voulait dire que pour celui qui pose la demande, n'importe qui peut poser une demande pour pouvoir résister ceci, ça s'appelle une opposition. Donc avant d'autoriser le brevet, c'est une opposition avant la délivrance. Une fois que ça a été délivré, il y a une opposition après la délivrance du brevet. Donc ensuite, il faut voir la rentabilité de ceci, puis ça, ce sont des licences obligatoires, volontaires, et puis Alessandra parle un petit peu sur ceci, l'utilisation du public non commercial, et en Inde, nous avons un autre système pour contrôler les prix, et ça s'appelle la commande de prix de médicaments. Et puis c'est environ 2 millions de dollars américains, mais ça ne s'applique pas aux médicaments importés. Maintenant, le gouvernement pense à faire le lien entre le contrôle des prix avec la délivrance de brevets. Donc, je ne sais pas comment ils vont le faire, mais ça va arriver bientôt. Donc, les oppositions maintenant, je vais parler de l'opposition seulement. Il y a, sous la section 25.1, il y a des pré-délivrances et des post-délivrances. Et puis, dans 25.2, ça dit que ça parle de la post-délivrance. Et puis, ceci est presque identique. Je vais vous donner quelques exemples sur ceci. Et un des cas qui est allé à la cour, c'est le cas d'un médicament qui s'appelle Glivec, qui est anticancérigène et ça traite la leucémie myéloïde. Et Novartis, une compagnie suisse, a été donnée des droits de marketing exclusifs parce qu'ils avaient un brevet en Australie et l'approbation pour le marketing en Australie. Donc ils sont venus avec ceci et puis ils ont dit aux autorités de l'Inde qu'ils ont ceci sous l'accord de l'ADPIC, vous devez nous donner ceci, vous devez donner les droits de marketing exclusif. Et ils ont obtenu ceci et ils ont classé des cas contre les fabricants génériques. Et il y avait 7 compagnies qui faisaient les médicaments génériques. Et puis c'était quoi la différence de prix? Le prix en Inde par mois, par patient, c'était 2 700 $ américains pour le médicament. Et puis les génériques, ils le donnaient à 200 $ par mois. Donc notre client, qui était l'association d'aide aux cancéreux, a en fait donné une subvention et puis ils leur ont donné pour 25 $. Donc ils étaient en train de leur donner une subvention de 175 $. Donc lorsque cette loi sur les brevets était en vigueur en 2005, en fait ils ont posé la candidature pour Vitesse. Donc c'est ce qu'ils doivent faire et puis nous avons classé une opposition. Dans cette demande, ils ont dit que il y a une composante qui s'appelle imatinib mesylate et puis c'est une composante qui comprend, ils ont indiqué que cette forme cristalline de sel c'était complètement nouveau, c'était très différent ce qui concerne l'efficacité et donc il devrait être donné un brevet. Et puis ils ont dit, ça a seulement été fait dans 35 pays, donc les autorités indiennes devraient également le faire. Donc maintenant, l'association d'aide aux cancéreux a fait une opposition, a classé une opposition. Ils ont dit que ce n'est pas une nouvelle médicament, c'est une forme saline de médicament, c'est plus logique, c'est une petite amélioration d'une substance connue. Et puis il n'y a pas de vraie différence dans les propriétés. Et si les autres pays vont donner des brevets ou pas, ce n'est pas pertinent pour les lois des brevets en Inde, parce que la loi sur les brevets en Inde a des provisions spécifiques qui permet pas que ceci arrive. Donc en janvier 2006, le bureau de brevets, ça c'est le premier cas où en fait ils ont décidé, ça c'était décidé par ceci, en fait ils ont rejeté le brevet. Donc maintenant on avait prévu que ceci arriverait pendant longtemps, ils ont rien fait. Puis après 8 mois, maintenant, ils viennent de classer. Juste avant de venir de l'Inde, ils viennent de classer une demande juridique pour défier le contrôle du brevet. Et puis deuxièmement, ils ont défié la validité constitutionnelle de la section 3D que j'ai mentionné plus tôt. Les nouvelles utilisations ne sont pas patentables. Donc je ne sais pas comment ils vont réussir avec ceci. Ça va arriver à la cour de Madras le 23 mars. Donc à part Glivec, qui avait été décidé en partie parce que ça devait passer tout ce processus, donc ça va aller jusqu'à la Cour suprême. Donc ça va être une lutte jusqu'à la fin. Et certains des groupes pour l'accès au traitement, en fait, vont se rencontrer parce que le 23 de ce mois-ci, il va y avoir des manifestations. Donc les autres positions qui ont été classées sont de Combivir, TDF, Abacavir, Tazanavir, Valganciclovir et Imprenavir. Donc ceci a été donné par, a été classé par les gens qui vivent avec les gens qui vivent avec le VIH et le SIDA. Mais nous, on va faire le classement avec d'autres groupes qui sont affectés. Et ceux qui sont intéressés à ceci, il y a un groupe sur l'internet qui c'est pour obtenir plus d'informations sur ces problèmes. Donc vous pouvez savoir plus ceci. Quelles sont certaines des objections que nous avons vues? C'est la même chose. L'invention n'est pas nouvelle, c'est logique. C'est juste une nouvelle utilisation du médicament. C'est pas, on peut pas établir un brevet sous la section 3D. C'est la combinaison, c'est juste une nouvelle chose. Ça peut pas être quelque chose où on peut autoriser un brevet. Et la combinaison de ce mélange ne permet pas l'application. Donc l'application était encore en suspens dans plusieurs autres pays, et puis ça a été tiré dans ces pays. Donc il y a deux autres choses que je voudrais mentionner. En ce moment, pourquoi est-ce que ceci est important? Parce que l'Inde fournit 50% de la demande dans les pays en développement. Donc qu'est-ce qui arrive en Inde concernant les médicaments de première, deuxième et troisième ligne? Ça ne va pas juste avoir un impact sur l'Inde, mais tout le monde en développement. Et malheureusement, l'Inde, qui est le fournisseur le plus grand de médicaments antirétroviraux avec les prix les moins élevés, les gens qui sont positifs en Inde, que nous prévoyons, sont 5,2 millions de personnes, et ils exigent les antirétroviraux. Et puis vous allez croire que seulement 20 000 vont l'obtenir gratuitement. Uniquement 20 000. Donc les groupes indiens, ils doivent faire beaucoup de travail sur ceci. Et puis ça, c'est le départ de ceci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre prochain conférencier, c'est Sangeeta Shashikant.
De la Malaisie, Sangeeta est chercheur qui travaille avec le Third World Network en Malaisie. Bonjour. Ce que je me propose de faire dans le temps qui m'est imparti est de parler de notre expérience en Malaisie et de l'utilisation par la Malaisie des flexibilités des ZPIC pour assurer un accès plus abordable aux TAR. Et l'érosion de ces flexibilités par les négociations entre la Malaisie et les États-Unis qui sont en cours. En 2003, la Malaisie était le premier pays asiatique, à la suite de la déclaration de droit sur les ZPIC et la santé publique, à émettre un décret d'usage d'État pour importer des versions génériques des TAR brevetés de l'Inde. Les décrets d'usage de l'État sont une flexibilité inscrite dans la déclaration qui permet d'utiliser des produits brevetés pour son utilisation, l'utilisation de l'État sans le consentement et les négociations avec les brevetés. Alors, ministère de la Santé avait essayé de le faire sans beaucoup de succès. Les diminutions de prix étaient insuffisantes compte tenu du budget pour l'achat des traitements antirétroviraux. Alors, en novembre 2002, le ministère de la Santé a demandé au cabinet d'approuver l'importation des TAR de l'Inde. Le cabinet a approuvé cette demande en vertu de l'article 84 de la loi sur les brevets de 1983. Ici, on voit les médicaments qui ont été importés. Il y avait deux fabricants, BMS, et la principale condition était que les médicaments importés soient pour les hôpitaux publics et que la durée de l'entente serait de 2 ans. En raison de cette autorisation d'usage et d'État, les prix ont diminué de 81%. Et ceci a augmenté le nombre de patients qui ont pu être traités de façon très importante. Alors, les prix brevetés étaient de 261 $. En 2004, le prix de la version générique était de 45 $. Et dans l'autre cas, 362 $ US. La diminution a été de 115 à 134 $. Ce qui est intéressant, c'est que en raison de ce décret, les détenteurs de titulaires de brevets ont également baissé les prix de leurs médicaments. Pour la dédénucine, il y a une diminution d'environ 50%. En 2001, 63. En 2002, 32 $ US. Environ 59% de diminution. Il y avait également GSK a diminué le prix du Combivir de 80%, de l'AZT de 53% et du 3TC de 67%. Pour le gouvernement, une des exigences était qu'il fallait accorder une rémunération adéquate aux détenteurs ou aux titulaires du brevet. C'était une exigence de l'accord des ADPIC. D'après le ministère de la Santé, le titulaire n'a manifesté aucun intérêt pour demander cette rémunération. Des raisons données étaient que le titulaire de brevet créerait un précédent pour d'autres autorisations de générique, que ce serait une mauvaise publicité pour le breveté s'ils acceptaient. Ça, c'est de l'information que nous avons obtenue auprès du ministère de la Santé. L'autorisation, en vertu du décret, a pris fin en novembre 2005 et le ministère de la Santé a envisagé deux options. D'abord, de négocier des prix pour des produits brevetés à un niveau acceptable et la deuxième, d'appliquer ou de demander un renouvellement de l'autorisation. Il semblerait qu'ils ont opté pour la négociation des prix parce qu'ils avaient eu une autorisation d'usage d'État et ils en étaient servis pour négocier les prix de produits brevetés. Parce que, comme on l'a vu, à la suite du décret, les prix des produits brevetés ont diminué de manière importante. Quels sont les défis? Il y avait d'abord l'opposition des brevetés après l'autorisation du Conseil des ministres. GSK a proposé de diminuer de plus de 50% le prix du Combivir. Alors la question se posait, est-ce que la Malaisie agissait de façon légale en fonction du traité des APIC? Ceci a soulevé beaucoup de préoccupations dans d'autres ministères, le ministère du Commerce par exemple, qui ont alors exercé des pressions contre le ministère de la Santé. N'utilisaient pas les autorisations du gouvernement. Mais finalement, le ministère de la Santé a tenu bon, renforcé dans sa position par la déclaration de Doha. Il y a eu une poursuite de la part d'un des détenteurs de brevets en Malaisie, mais pour l'instant, ça n'est pas allé de l'avant. Comme vous pouvez le constater, la Malaisie est un des seuls États, mais il y en a eu d'autres qui se sont prévalus des flexibilités de les ADPIC. En Indonésie, par exemple, un décret présidentiel a été émis le 5 octobre 2004 parce que, à la lumière du besoin urgent de la population et de juguler l'épidémie du sida. l'Indonésie a décidé de désigner un fabricant comme exploitant du brevet. En versant une redevance de 0,05%, sous prétexte que l'Indonésie vivait une crise économique, elle ne pouvait pas verser plus. Alors, les flexibilités des ZPIC sont très légalistes. La société civile a évidemment poussé très fort pour qu'on se prévale de ces possibilités. Mais des obligations des ZPIC plus commencent à se faire jour dans des ententes bilatérales qui minent l'utilisation de ces flexibilités. On le voit par exemple dans les ententes sur le libre-échange négocié avec les États-Unis. Alors, si vous regardez dans les ententes de libre-échange, qui diffèrent les unes des autres évidemment, mais sur l'exclusivité des données, cette disposition a été exclue dans la négociation des ZPIC, mais réapparaît par la porte arrière dans les ententes bilatérales, pas seulement pour la propriété intellectuelle, mais pour d'autres questions. Alors, il y a l'exclusivité des données qui empêche l'instance de réglementation des données d'utiliser des données créées par l'inventeur pour autoriser l'utilisation d'une version générique. La deuxième, c'est les restrictions des motifs d'octroi d'une licence obligatoire. Bon, un motif d'urgence nationale ou d'urgence extrême ou pour utilisation publique non commerciale, mais pour aucun autre motif. Et la société civile et le gouvernement ont lutté lors de la déclaration de droit pour ne pas limiter les raisons pour lesquelles on pourrait émettre une licence obligatoire. Il y avait aussi le problème de la transformation des instances de réglementation des médicaments en police des brevets. Alors, ils sont pas, ces autorités ne sont pas appelées à déterminer si un produit est breveté ou pas. Il y a aussi une prolongation de la durée des brevets. Si on retarde l'octroi d'un brevet, sa durée est prolongée. Il y a la restriction et la prohibition d'une importation parallèle ou l'exigence de l'octroi d'un brevet pour de nouvelles utilisations de produits pharmaceutiques connus. Ça, c'est une disposition qu'on inscrit dans les nouvelles ententes. Alors, quelles sont les conséquences? Si on prend le cas de la Malaisie, en 2003, nous avons émis un décret d'usage du gouvernement d'État. Et je vous ai montré que cette information provient du ministère de la Santé. Et les prix des TAR ont diminué. Le nombre de patients traités a augmenté. Mais nous sommes ensemble à la troisième ronde de négociations avec les États-Unis. Et sans doute que nous allons devoir accepter un certain nombre d'obligations. Et si on les accepte, on pourrait émettre une autorisation d'usage d'État, mais on ne pourra pas utiliser le produit. On a l'autorisation, mais on ne peut pas inscrire le médicament au pays. Alors à quoi bon? Si on émet une licence obligatoire, les motifs sont limités. Ces problèmes, la Malaisie y fait face, mais d'autres pays qui négocient ou ont négocié des ententes de libre-échange bilatérales y feront face également. J'aimerais terminer avec cette diapo qui montre où nous étions et où nous en sommes maintenant. Avant l'accord sur les ZPIC, il n'y avait pas de normes minimales pour les droits de propriété intellectuelle. Alors, la page était vierge. Ensuite, il y a eu une institution qui s'appelle l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, l'OMPI. Évidemment, il y avait eu la Convention de Paris qui fixait des obligations minimales. Il suffisait, on avait ces obligations que si on était signataire du traité. Ensuite, il y a eu l'accord sur les ZPIC, qui était la première entente multilatérale qui a édicté des normes de base en matière de propriété intellectuelle, sans discrimination entre les secteurs. On ne pouvait pas dire qu'on voulait exclure les médicaments. Et c'était applicable à tous les pays signataires. Les pays en voie de développement, au moment des négociations à l'Organisation mondiale de la santé, les pays en voie de développement ont dit non, nous ne voulons pas négocier cela. Mais ils ont accepté parce qu'ils ont estimé qu'ils pouvaient obtenir quelque chose au niveau du commerce ou de l'agriculture. Alors ils ont accepté, mais ensuite ils ont travaillé très fort pour obtenir des assouplissements. Alors ensuite, il y a d'autres exercices d'établissement de normes au sein de l'OMP, notamment en ce qui concerne les brevets. Je ne veux pas parler trop de ce qui se passe à l'intérieur de l'OMP, mais il y a un traité qui se négocie, qui va amener les brevets beaucoup plus loin que les ZPIC et éliminer un certain nombre d'assouplissements. Mais ces traités sont volontaires, ou l'étaient du moins. Autrement dit, si on ratifie le traité, ce n'est qu'alors qu'on doit respecter les obligations. Maintenant, il y a les ententes de libre-échange qui obligent les pays à accepter beaucoup ou à entériner beaucoup de traités de l'OMP. Beaucoup de pays en voie de développement n'avaient pas signé ces traités de l'OMP. Mais à l'avenir, ils vont devoir signer les traités de l'OMP. L'Indonésie, par exemple, a subi beaucoup de pression pour signer le traité sur la coopération avec les brevets. À partir de ce moment-là, le nombre de brevets dans le pays augmente. Et c'est là où nous en sommes en ce moment. Si on se préoccupe réellement de l'accès aux médicaments, nous allons devoir réfléchir à des manières d'atténuer les effets des négociations à l'échelle internationale et régionale et pour limiter les droits de propriété intellectuelle. Il faudrait peut-être essayer de protéger les médicaments contre ce qui se passe dans le domaine des négociations en matière de propriété intellectuelle. Merci beaucoup.
Merci Sanjita. Et le dernier conférencier, Jonathan Berger, qui est chercheur en chef du projet de loi sur le sida en Afrique du Sud. Bon après-midi tout le monde, merci. Alors je vais parler de deux campagnes sociales civiles qui ont eu du succès en Afrique du Sud, qui ont pu augmenter l'accès aux médicaments pour traiter les maladies reliées au VIH. Même si ce sont deux cas assez anciens déjà, il y a des éléments qui sont encore pertinents. La raison pour laquelle il n'y a pas eu de campagne récente, c'est pas parce qu'il n'en avait pas besoin. Mais comme vous le savez, de vivre dans un pays comme l'Afrique du Sud, où le président croit encore qu'il n'y a aucun lien entre le VIH-SIDA et le ministère de la Santé, qui préfère utiliser des remèdes médicaments non testés plutôt que ceux qui ont été prouvés. Nous avons beaucoup d'autres batailles sur nos mains. Et même s'il n'y a rien de très récent en ce qui a trait aux médicaments d'Afrique du Sud, dès que nous aurons réglé d'autres problèmes, on s'en prendra des compagnies comme Abbott, comme Merck, comme Iliad. La bataille à l'accès en Afrique du Sud n'a pas encore été gagnée. La deuxième chose avant de commencer, il y a une séance cet après-midi à 4h15 avec l'accès au traitement, l'épidémie oubliée dans les prisons, le sida dans les prisons, et nous luttons présentement pour l'accès aux médicaments pour les prisonniers en Afrique du Sud. Il y a eu le cas d'un prisonnier qui est mort la semaine dernière. Il a commencé son traitement qu'en juillet de cette année, presque 24 mois après qu'il ait été identifié comme séropositif. Alors, il n'est pas facile d'obtenir un traitement pour ces gens-là. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une présentation de trois volets. D'abord, le contexte sud-africain. Je crois que, avant de pouvoir comprendre pourquoi certaines actions ont été prises ou pas prises, il est important de voir quelles autres inquiétudes nous avons sur l'accès, quel est le contexte politique en général et pourquoi certains participants participe et d'autre part, et quel est le cadre constitutionnel dans lequel nous travaillons. Dans les deux études de cas sur lesquelles je me concentrais, tout d'abord la première est Hazel-Tow et l'autre c'est Jessica, Boehringer et Engelheim. Afin de parler un peu d'un accès, un meilleur accès au traitement AVR et aussi de défier les prix exorbitants pour certains de ces médicaments. Alors, même s'il y a beaucoup d'attention qui est portée au brevet, il ne faut pas oublier le fait que l'enjeu n'est pas nécessairement la protection des brevets. C'est du fait qu'il n'y a pas de concurrence en médecine. Les brevets ont un grand rôle à jouer là-dedans, mais c'est une question de manque de concurrence et donc les prix demeurent toujours aussi élevés. Les inquiétudes en ce qui concerne l'accès ont à voir avec les prix excessifs. Ceci s'est amélioré au fil des ans, mais ce n'est pas encore à un niveau acceptable. Les prix sont encore trop élevés et il y a encore de la place pour améliorer cette situation. Et deuxièmement, quelque chose qui a été dit ce matin dans la présentation sur le Rwanda, et c'est la question de pouvoir continuer à fournir les médicaments sur une période de temps prolongée. Et donc, la fiabilité des fournisseurs ou de pouvoir fournir ces médicaments. Nous avons vu dans différentes circonstances en Afrique du Sud un manque, une pénurie de médicaments des pays comme le Botswana qui se fie et dépend entièrement aux médicaments brevetés. Où il y avait par exemple une lettre de GSK qui disait au gouvernement du Botswana que nous ne pouvons pas vous fournir de l'AZT, veuillez s'il vous plaît contacter une autre entreprise en Afrique qui vous fournira ce médicament. Mais Botswana a un droit légal d'importer des médicaments d'Aspen en Afrique du Sud sans recevoir de permission légale. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il y a eu, il continue d'y avoir très peu de progrès quant au fait d'assurer le cadre régulatoire sur le sida, de s'assurer que les médicaments soient à un prix abordable. Sangita a parlé de l'exemple en Malaisie de provisions utilisées par le gouvernement. Nous en avons de même dans nos lois qui existent depuis longtemps. C'est constitutionnel et pourtant le gouvernement refuse d'honorer ses propres lois et ils ne menacent même pas d'utiliser ces lois. Ils agissent comme si on leur avait coupé les mains et qu'ils ne pouvaient plus agir. Dans ce contexte, donc, le leadership a été pointé du doigt par la société civile et la société civile a été obligée de trouver des façons novatrices, de trouver des façons imparfaites mais quand même utiles de contourner le problème. Dans le contexte constitutionnel dans lequel les droits socio-économiques sont protégés, le droit à accès aux soins de la santé sont garantis par la constitution sud-africaine qui met une obligation positive sur l'État d'assurer que les gens puissent avoir accès aux soins de la santé. Et il y a eu plusieurs procès dans ce sens. Même dans des cas où le gouvernement n'est pas obligé de fournir les médicaments sans coût, certainement de ceux qui, dans des situations qui ne pourraient pas, qui n'ont pas les moyens, il y a une obligation quand même. Mais ceux qui ont de l'argent, l'obligation de la part du gouvernement est de s'assurer que les prix soient quand même abordables. Alors il y a des provisions qui existent où on peut réduire les coûts et une obligation constitutionnelle d'utiliser ces possibilités. Dans notre cadre constitutionnel, la législation doit être interprétée en termes des provisions socio-économiques et toutes provisions qui sont incluses dans les droits de la personne. Et bon, on ne peut pas dire que ceci est exclusivement relié au droit à la propriété ou au brevet, propriété intellectuelle. Dans, selon la Constitution et selon les droits de la personne au niveau international, les provisions sur les brevets, la conformité avec les droits de la personne et le droit aux soins et à la vie. Les deux études, ce dont on parlait, les trois médicaments étaient brevetés, qui en fait représentaient trois des sept médicaments AVR essentiels. À cette époque-là, lorsque le procès a été intenté, il n'y avait pas de loi qui entourait cela. AZT, depuis ce temps-là, n'est plus breveté, mais dans le cas de 3TC et NVP, c'est encore le cas. Les prix étaient excessifs. On s'est concentré là-dessus parce que le secteur public ne fournissait de soins à personne. Et donc, nous ne pouvions pas mettre ces prix-là, défier ces prix. En ce qui concerne l'amphotéricine B, il y a l'équivalence sur le marché et donc on se demande où sont les compagnies qui font des produits génériques, des médicaments qui ne sont pas brevetés, des médicaments tels que Frangisone, et nous n'avons pas vu de version générique. Il faut que ces compagnies pharmacologiques se mettent aussi à contribuer à ce niveau-là. Alors, je commence à manquer de temps, alors je vais aller plus rapidement parler de ces deux exemples. Le premier cas était basé sur une disposition de la loi 8A qui parle de l'engagement de prix excessif. Il faut prouver donc qu'il y a un prix excessif et que c'est au détriment des consommateurs. Pas très difficile à faire dans ce cas-ci. Nous sommes allés de l'avant, on a dit que les prix étaient reliés à la mort prématurée, prévisible et inévitable de gens vivant avec le VIH-Sida. Trop souvent, on marche sur la pointe des pieds, on évite de dire les choses ouvertement, mais c'est ce qu'on a fait dans ce cas-là. On dit, vos prix tuent les gens, à moins que vous ne baissiez vos prix, on va vous forcer à le faire. Nous avons pris une approche conservatrice dans ce cas-ci. Nous avons essayé vraiment d'être flexibles. Écoutez, si on considère tout ce qu'il faut considérer, les coûts de développement, les coûts de fabrication, les coûts de recherche, de développement, de licence, de profit même raisonnable, même quand on prend tout cela en considération, vous ne pouvez pas justifier les prix que vous chargez. C'était la présentation que nous avons faite et on espérait qu'il viendrait en tribunal pour répondre à ces accusations. Ben, le tout a été réglé hors cours en décembre 2003, avant que ce soit référé à un tribunal sur la concurrence, dont plusieurs aspects légaux sont encore non résolus. C'est une décision qui était difficile à prendre. On voulait avoir d'un côté un bon précédent légal, mais d'un autre côté, il y avait des vies en jeu et on voulait vraiment leur trouver un accord le plus rapidement possible. Alors, un des avantages d'avoir donné notre accord à cet accord, c'est que les prix ont baissé, surtout pour les médicaments associés au traitement AVR, et c'était essentiel. On s'est plaint des prix excessifs, mais ça a résulté dans une solution sur les licences. Vous pouvez voir les termes, les conditions qui s'appliquent à toutes les licences qui sont octroyées. Dans le cas de Jessica, il y a eu un certain nombre de licences. Voici les prix par secteur, c'est encore bien trop élevé, mais on voit qu'il y a quand même une diminution dans la dernière colonne. Vous pouvez voir le pourcentage, 65% dans le AZT 300 mg. Cela varie entre 57 jusqu'à 88% dans le cas de l'amivudine, de diminution de prix. Et finalement, dans le cas de cryptococcal méningite, il y a eu entre nous et Bristol Myers Squibb qui pensait pouvoir nous apprendre quelques leçons en loi sur la concurrence. On a dit que s'ils voulaient parler de cela, on les verrait en cour de justice et devant les tribunaux. Ils n'ont pas pu justifier leur politique de prix et ils ont donc réduit leur prix de 80 à 85%. À cette époque-là, le prix dans le secteur public, surtout pour le la méningite cryptococcale, était de $20 par malade par journée. À la fin, c'est descendu de $20 à $3 par jour. Alors, pour terminer, il est important de voir quelles sont les leçons que l'on peut apprendre. C'est que nous ne sommes pas obligés d'attendre que les gouvernements mènent la barque. La plupart de nos gouvernements sont très heureux de blâmer les autres, de laisser le méchant George Bush, de blâmer l'Organisation mondiale du commerce, mais ils doivent prendre leurs propres responsabilités et agir sur les lois qui ont déjà, les accords internationaux qui sont en place. Alors, je vais terminer avec cette dernière diapo qui n'a pas besoin d'explication. Merci. Merci Jonathan. Et nous allons maintenant passer aux membres du panel qui ont reçu des questions sur Descartes. Et chacun va prendre 3 minutes pour répondre à ces questions.
Yes, I don't know. Should we start with Sangeeta?
Alors on va commencer avec Sangeeta. Vous avez eu le temps de lire vos questions? Ben, la première question que j'ai est de savoir comment est-ce que ces accords bilatéraux affectent la capacité des gouvernements d'expédier les lois, de passer les lois sur l'approbation des médicaments. Ben, d'après ce que je comprends, cela n'affecte pas. Il n'y a pas d'effet. Avant qu'un médicament puisse s'utiliser, il faut qu'il soit enregistré dans le pays. Il doit avoir la permission de mise en marché. Et ce que ces dispositions font, c'est que la version générique dépend sur les données, les essais qui ont été faits, générés par la compagnie mère pour avoir l'approbation initiale de son produit. Pour que la version générique reçoivent l'approbation, ils n'ont qu'à prouver la similitude entre leur produit et le produit original. Ils ne sont pas obligés de générer de nouvelles expériences, de nouvelles données. Donc, si vous avez de l'exclusivité de données, des dispositions d'exclusivité de données sur une période de temps, je crois que c'est 5 à 10 ans maintenant, entre 5 et 11 ans, si c'est le cas, les versions génériques ne peuvent pas entrer sur le marché pendant cette période de temps. Et cela, ce n'est pas seulement pour les produits brevetés, c'est aussi pour les produits non brevetés. Et même si un produit n'est pas breveté, mais le détenteur du brevet ou le fabricant ont des droits sur les essais, sur les données qui se relient aux médicaments, c'est un problème pour la fabrication de la version générique. Alors, l'autre sur la flexibilité des APIC, le professeur Brooke Baker des États-Unis a posé la question. Cette flexibilité n'est pas suffisante, nous ne voulons pas pouvoir élargir le cadre de ces lois pour traiter les médicaments comme un bien public, comme ils le sont. Bien, la flexibilité d'APIC ne suffit pas, sûrement, parce que nous avons pour l'instant cette flexibilité, mais il y a tellement de pression pour ne pas l'utiliser.
Assouplissement.
C'est parce que le ministère de la Santé était déterminé que le Premier ministre lui-même, lors de la réunion de Camille, a dit « Nous allons aller de l'avant parce qu'il y a cette déclaration qui dit que c'est notre droit. » Et parce que nous avions cette déclaration, nous avons pu le faire. Mais dans certains pays, ils n'utilisent pas les assouplissements d'ADPIC parce que il y a beaucoup de pression de la part du secteur industriel, d'autres ministères du pays, de ne pas utiliser ces facteurs d'assouplissement. En Indonésie, quand ils veulent utiliser l'ordre Government News, ils ont dit que tous ceux qui sont conscients du fait que le gouvernement allait se servir de cela, ils ont dit, écoute, il faut garder cela secret, et ça va tomber sous une interdiction de publication, parce qu'ils savaient qu'il y aurait beaucoup de pression sur eux pour ne pas utiliser cette loi. Alors il y a une certaine souplesse, mais on ne l'utilise pas quand on veut le faire. Il y a des pressions aussi d'adopter ADPIC plus 10, mais et l'argument qui est mis de l'avant dans les détenteurs de brevets, ils disent qu'il faut augmenter la portée des brevets parce que à cause de l'argent qui a été investi dans la recherche et le développement. Mais quand on voit les données, on voit qu'il y a de plus en plus de brevets qui sont octroyés, mais en fait, les dépenses en recherche et développement ne sont pas aussi élevées, et donc ce n'est pas le cas que plus on investit dans la recherche et le développement, plus on a de nouveaux médicaments. Il y a un rapport qui a été publié récemment sur les droits de la propriété et l'innovation en santé, qui identifie cette commission que les brevetés dans les pays à faible revenu ne fait rien du tout pour la recherche et le développement. Les entreprises ne devraient donc pas faire application pour un brevet dans des pays à faible revenu. Alors là où l'ADPIC existe, on devrait exclure cela des accords dans le cadre du commerce international, parce que les pays en voie de développement utilisent les produits des droits à la propriété intellectuelle, et alors que les autres produisent ces médicaments. Dans le cas de l'Inde, une des raisons principales pour laquelle ils ont pu développer leur propre industrie pharmaceutique, et c'est parce qu'ils n'avaient pas de produits brevetés dans leur pays. Alors, je crois qu'il faut voir la façon d'ouvrir la porte, parce que ceux-ci deviennent des outils essentiels à la vie, et on ne peut pas s'en dispenser si facilement. Alors, je dirais de vraiment résumer les réponses, parce que nous avons énormément de questions, et il est essentiel donc d'y répondre le plus grand nombre possible. Alors, trois questions. Tout d'abord, qu'est-ce que les entreprises en Inde font pour les médicaments génériques? C'est une honte de voir un nombre si grand de personnes mourir alors qu'il pourrait y avoir des médicaments génériques. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait faire en Inde, et nous avons déjà amorcé une campagne à cet effet. Et Robin Stearns, de l'université Allied for Essential Medicine, quelle position est-ce que l'industrie générique a-t-elle prise en Inde sur la protection de la propriété intellectuelle? Est-ce que cela évolue avec le temps? Question importante et intéressante. Mais c'est comme n'importe quelle industrie. Ils sont là pour faire des profits. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais entre 1985 et 2005, il y a eu une division, si vous voulez, dans l'industrie des médicaments génériques. Une qui est représentée, les nouvelles organisations indiennes qui s'en viennent sont représentées dans ce groupe-là, et les autres sont les multinationales américaines et mondiales qui représentent les intérêts des pays étrangers. Alors il y a deux associations en Inde, l'association des fabricants de médicaments pour les produits génériques et l'alliance pharmaceutique pour la recherche et le développement, qui avant ne faisait que les produits génériques, mais qui maintenant crée des partenariats avec les entreprises américaines et d'autres compagnies à travers le monde. Et elles exportent des vaccins. 50% de leur production est pour le marché américain. Ils ne sont pas intéressés exclusivement aux besoins de l'Inde. Ils veulent aussi faire des profits à l'étranger. Alors, sans aucun doute, il ne s'agit pas d'Inde ou indien ou pas indien, mais générique ou pas générique. Alors, Dick Cavanaugh des États-Unis a dû comprendre, bon, pour comprendre après l'accord du Rand, le représentant américain a forcé l'Inde de ne pas exporter des médicaments pour le voyage au Nigeria ou alors il y aurait des sanctions. Est-ce que Clinton a fait quelque chose pour arrêter cela? Ben, très bonne question. Monsieur Gates et Monsieur Clinton devraient dire à l'administration américaine d'arrêter d'utiliser 301. Et l'hypocrisie est évidente parce que on peut parler de réduction de méfaits, mais on peut aussi parler de politique qui affecte les multinationales américaines dans le pétrole et ailleurs. Bien, quelques questions maintenant. Oui, j'en ai plusieurs. Je vais essayer d'y aller le plus rapidement possible. Question de Marilou d'Afrique du Sud. En parlant de la définition des urgences nationales sous ADPIC en ce qui concerne les licences.
Définitivement, en vertu de la déclaration de Doha, il est clair que la pandémie du VIH-Sida est considérée comme une crise nationale, une urgence nationale. Mais au-delà de cela, les pays sont libres de décider ce qui constitue une urgence nationale. Mais cette question n'est pertinente que par rapport au processus, mais ça ne change rien au droit d'accorder de telles licences. S'il y a une urgence, on n'est pas obligé de mener des négociations préalables. Il suffit d'émettre ou d'octroyer les licences. Mais le droit lui-même n'est pas lié à une situation d'urgence quelconque. La deuxième question est de Steve Hubbard au Canada. Il parle de la disjonction entre les prises de position progressistes du gouvernement et ce qui a été fait dans le dossier du VIH-Sida. Nous n'avons pas d'opposition au Parlement. La seule opposition est l'opposition qui vient de la société civile. Nous avons un système électoral qui est basé sur la représentation proportionnelle. Donc les politiciens doivent leur siège au parti. Et la fidélité prime surtout le ministre de la Santé le montre. Si on fait ce que le patron veut, on garde son poste, indépendamment des dégâts qu'on fait à l'économie et des vies qui sont détruites. Il reste que deux autres questions. Le professeur Nasiri des États-Unis. Amphotericin B n'est pas disponible en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous utilisez à la place? Là où ce n'était pas disponible dans le secteur public, le traitement n'était fourni que par le biais du fluconazole. Maintenant qu'on l'a, et je ne sais pas à quel point, ça devrait normalement l'être dans tous les établissements publics, les deux premières semaines seraient en Amphotericin B avec entretien au fluconazole. Le fluconazole a été le fruit d'une longue lutte du Treatment Action Campaign pour la baisse de son prix. Dudu d'Afrique du Sud a dit, n'est-il pas bon que le ministre de la Santé a permis un certain nombre d'options pour les personnes vivant avec le VIH et le SIDA? Que faut-il faire de plus? Il est vrai qu'il y a eu des progrès. Mais le gouvernement a réagi, le gouvernement n'a pas mené, pour ce qui est des options. Ça m'inquiète, parce que je crois qu'il y a une rhétorique du choix, des remèdes non prouvés sont considérés comme équivalents aux traitements scientifiquement prouvés. Alors, sous le couvert des droits humains, on dit on va donner les droits humains, mais les lois ne sont pas correctement appliquées pour permettre aux gens de prendre des décisions éclairées. Quand ils prennent un médicament, ils doivent savoir que ça a été approuvé et que ce n'est pas simplement un remède traditionnel dont on espère que ça pourrait avoir un effet. Et le docteur Hambé du Cameroun pose plusieurs questions, mais celle sur laquelle je vais me concentrer concerne le négationnisme du VIH, la remise en question du rapport entre VIH et le SIDA, et quelles sont les conséquences pour l'accès au traitement en Afrique du Sud. Définitivement, le rythme du déploiement a été... L'écart entre les personnes qui ont besoin de traitement et qui ont des traitements est sans doute dans les 500 000 personnes maintenant. Tant qu'on n'a pas réglé la confusion créée par le négationnisme depuis des années, la confusion va persister. Les travailleurs de la santé ne sauront pas quoi faire et les dirigeants politiques aux échelons inférieurs ne sauront pas ce qu'il faut faire pour plaire à leur patron. Est-ce que ça va leur coûter leur poste? Tant qu'il n'y a pas une direction claire des échelons supérieurs, que les antirétroviraux sauvent des vies et que le VIH est la cause du sida, on ne pourra pas vraiment effectuer le virage qui s'impose. Il reste un certain nombre de questions, trop pour qu'on puisse y répondre toutes, mais on me demande de lire une déclaration très brève de certains ONG. L'accès au traitement, les gens avant le commerce. Nous, les participants assistant au 16e congrès international sur le sida, exigent que nos gouvernements et négociateurs commerciaux protègent le public contre les conséquences négatives possibles des ententes bilatérales et régionales sur la santé publique. Ces ententes imposent des normes encore plus strictes de protection de la propriété intellectuelle que celle de l'accord sur les ADPIC de l'OMT, c'est plutôt. Il est déjà, les gouvernements doivent prononcer un moratoire sur les accords commerciaux qui comprennent de nouvelles restrictions sur les droits de propriété intellectuelle pour aux médicaments, et que les gouvernements doivent s'engager à ne pas prendre de mesures contraires à l'accord sur les ADPIC en négociant de telles ententes. Cette déclaration circule, plusieurs personnes importantes l'ont signée, à ce qu'on me dit, et il y a un rassemblement un peu plus loin, à une heure, pour les gens qui aimeraient manifester sur cette question. Il y a beaucoup de questions sur la recherche et le développement, par rapport aux licences obligatoires. Nous n'aurons pas assez de temps pour répondre là-dessus, mais il y a eu beaucoup de choses écrites là-dessus qui montrent que dans 90% du monde, le marché des produits pharmaceutiques est dans les pays riches. La recherche et le développement a toujours visé ces pays. Si on fait le développement, c'est qu'il y a d'abord un besoin et un marché dans les pays riches. Mais les panélistes n'auront pas assez de temps pour répondre à ces questions parce que la séance tire à sa fin. Je voulais simplement demander à chacun d'entre eux de clore la discussion en prenant quelques minutes en répondant aux dernières questions qu'on leur adressait. Avant... Il y a une dernière demande de la part de la docteur Ruth Connick d'Afrique du Sud qui dit qu'elle n'est pas en mesure d'offrir des traitements de deuxième intention à ses patientes. Et elle recommande que cette réunion devrait aller au, à la salle des exposants pour dire aux sociétés pharmaceutiques qu'ils doivent baisser les prix et arrêter d'exercer les pressions sur les gouvernements et commencer à faire à se comporter de façon éthique. Alors, c'est une proposition pour après la séance. Panéliste, Alexandra. Merci, Michel. La question qui m'a été adressée concernait l'espoir que nous pouvons avoir par rapport à la situation. Est-ce qu'on peut faire dans nos pays respectifs? En dépit des barrières juridiques, enfin en plus des barrières juridiques, il faut créer d'autres espaces. Par exemple, il faut préparer les systèmes juridiques dans les nationaux à faire face à ces lois sur la propriété ou ces accords sur la propriété intellectuelle. On est très préoccupé au Brésil parce qu'on voit que les gens qui prennent des décisions ne sont pas bien préparés. Ils ne savent pas ce dont nous parlons. Alors ça, c'est une première chose. Aussi, et ça c'est pour moi très complexe, comment lutter contre l'information transmise par les sociétés pharmaceutiques et les laboratoires dans le monde au sujet des médicaments génériques. Même les gens qui ont besoin de médicaments et qui en prennent se posent des questions parce que les sociétés pharmaceutiques disent que les médicaments génériques sont de mauvais médicaments. Alors, il faut lutter contre ça. Et Abbott dit des choses très négatives au sujet des médicaments génériques que nous employons au Brésil. Alors, il faut des stratégies là-dessus. Aussi, nous devons mieux préparer nos militants, nos gens sur le terrain. Dans les années 80, le VIH, le sida était une question de santé publique, dans les années 90, de droits humains, mais c'est aussi une question de commerce. Les gens sur le terrain ont du mal à comprendre toutes les complexités dont il est question ici. Alors, chaque pays doit regarder ses propres possibilités. Mais ensemble, nous devons travailler à ce que l'information soit disponible et que nous ayons les capacités et les aptitudes nécessaires. Oui, pour répondre rapidement aux questions, il y a une question à Samita sur l'Inde, mais est-ce que les fabricants de produits génériques font des études sur les études? Oui, c'est tout. Mais la deuxième question. Gilead Sciences a récemment annoncé des demandes de brevets en Inde, tout en signant des licences volontaires avec des fabricants de produits génériques. Quels seraient les impacts? Gilead n'a pas de brevets en Inde. Il conclut des licences volontaires avec le gouvernement indien, pas en vertu de la loi sur les brevets. Parce que certains gouvernements disent, bon, s'ils accordent le brevet, il n'y aura plus de marché pour les Indiens. Les fabricants de génériques vont se faire neutraliser à long terme. Il y aura un impact sur les prix. Pendant combien de temps est-ce que les fabricants de génériques indiens vont rester indépendants? Quand ils seront dans quelle mesure ils ne seront pas absorbés. Alors, l'idée étant, je pense, de faire des fusions ou des acquisitions à plus long terme. L'intention des. On m'a demandé de parler des licences volontaires et obligatoires. Pour le breveté, on peut accorder une licence volontairement. La licence obligatoire est émise par un gouvernement à ses propres fins ou à une tierce partie pour lui permettre d'utiliser un produit breveté sans l'accord du breveté. Alors, pourquoi opter pour l'une ou l'autre? Prenons le cas de la Malaisie. Après la fin des utilisations à des fins d'État, pris fin en 85, les sociétés pharmaceutiques ont collaboré. Les produits brevetés ont baissé, ont vu leur prix baisser. Alors, nous ne connaissons pas tous les détails, mais on ne sait pas quelles sont les redevances qui sont versées, mais c'est à la suite de ça qu'on a accordé une licence volontaire. Il y a eu une série de décisions défavorables aux détenteurs de aux titulaires de brevets. La redevance était de 30% et a été ramenée à 5%. Alors, ce sont des événements qui ont obligé les titulaires de brevets à émettre des licences. Dans le cas de Tenofu, quand la grippe aviaire a frappé nos pays, Roche dit « nous n'allons pas accorder des licences, nous allons fabriquer ». Mais leur position a changé, parce que les pays ont dit « nous allons émettre accorder des licences obligatoires ». Et Roche a dit « ah, non, non, on va le faire volontairement pour empêcher que certains pays octroient des licences obligatoires ». Alors, si les fabricants ou les détenteurs de brevets le font, ils le font en disant « oui, vous pouvez l'utiliser dans le pays, mais vous ne pouvez pas l'exporter ». Les redevances sont très élevées. Aussi, en ce qui concerne les mécanismes de règlement des litiges dans les ententes de libre-échange, il y a deux types dans les ententes consignées en ce moment. L'État investisseur le droit de propriété intellectuelle a été défini comme l'investissement. Bon, l'investissement est défini de façon très large. Alors, si on enlève certains droits, ça peut constituer une expropriation, auquel cas le pays serait obligé de compenser l'investisseur. Dans certaines ententes, les licences obligatoires ont été exclues. Mais la question est de savoir quels sont les motifs qui permettent d'invoquer ce mécanisme et essayer de demander une compensation. L'autre mécanisme qui a été prévu est un mécanisme de pays à pays. Et ce qu'on voit, c'est que il y a des plaintes sans violation. Il y a un moratoire à l'OMC pour ce qui est des plaintes sans violation. Ça veut dire quoi? Même si un pays a une disposition requise par l'entente de libre-échange, mais qui annule ou nuit aux avantages qu'il pourrait obtenir en ayant cet investissement, ils peuvent poursuivre en vertu d'une plainte sans violation. Dernier commentaire.
Je n'ai plus de questions. Je vais donner trois dernières déclarations. J'ai un message. Le premier, c'est pour les gouvernements des pays en développement et l'autre pour l'industrie pharmaceutique et les innovateurs et également pour les compagnies de génériques. Pour ces gouvernements, doivent vraiment avoir leur cadre temporel sur la bonne voie. Donc, ceci va permettre à l'État d'agir, ce qui va permettre à la société civile d'agir, ce qui va permettre aux compagnies génériques de prendre l'action eux-mêmes. Ceci peut-être, je suis trop optimiste, mais bon, pour l'industrie pharmaceutique, ils doivent vraiment donner des licences aux compagnies pharmaceutiques sur ces termes, pas sur les termes que Saint-Guitel a discuté, puis s'ils ne le font pas avec des termes raisonnables, nous allons déterminer si ces termes sont raisonnables ou pas. Et s'ils ne sont pas satisfaits avec ceci, nous allons leur exiger de faire ceci en les poursuivant à la cour. Et voici les messages en Afrique du Sud pour Abbott et pour MSD. Juste pour les compagnies génériques, c'est également le moment de livrer. et d'agir. Ils ont vraiment profité du travail que nous avons fait comme Pharmacare en Afrique du Sud. Leurs actions ont été, ont vraiment grimpé à cause de tout le travail que nous avons fait. C'est le moment d'amener ces produits au marché, qu'ils amènent des combinaisons plus fixes et puis qu'ils aient des formules pédiatriques et qu'ils puissent ramener des produits comme un sac Leven et TRSNB. Nous avons besoin que ces produits soient sur le marché. Il faut ramener ce concept et puis d'aimer le fait que la plupart de l'attention c'est envers les innovateurs et pas envers eux. D'accord. Donc je crois que nous avons une façon très riche de voir comment dans ce monde mondialisé nous avions quatre différents pays et quatre différents continents qui en fait vivent avec le même type de problème et que la mise en œuvre de l'accord de la des accords de libre-échange n'aident pas vraiment l'accès aux médicaments. Donc je crois que nous venons de terminer une période de transition et si nous pouvons comparer ceci à la dernière conférence sur le sida où l'Inde n'était pas encore en train de respecter le régime de TRIPS et puis adhérer également au TRIPS et puis au départ nous sommes au départ d'une nouvelle époque et nous voyons que la lutte vient de commencer tout simplement pour essayer d'améliorer l'accès aux médicaments à travers le monde et avec la crise de traitement de deuxième ligne qui va venir où la plupart des médicaments sont brevetés, je crois que dans 2 ans, lorsque nous nous rencontrerons encore une fois pour la prochaine le prochain congrès international sur le sida, nous aurons beaucoup de batailles devant nous avec des poursuites judiciaires et des discussions sur le fait si TRIPS va devoir changer les accords de libre-échange et si nous devons faire un moratoire ou pas. Donc je suis certain que nous aurons beaucoup de débats, mais j'aimerais remercier également le public pour les questions et les panélistes seront disponibles pendant pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'obtenir une réponse. Donc, Madame la Présidente, merci. Je crois que vous avez bien résumé ceci. On a besoin d'une nouvelle organisation mondiale pour que les gens puissent mettre le bien-être des gens au-delà des profits.